Bosco d'Ouimana.
Merci de nous rejoindre sur Isanganiro. Voici les grands titres de ce journal. La réouverture de la frontière burundo-rwandaise de Ruhwa reste une vive préoccupation des habitants de la colline Ruhwa en zone Rukana de la commune Chivitoke. Sa fermeture les a privés de relations et d'échanges commerciaux. Mireille Kanyangé les a rencontrés chez eux. Elle est de retour. Reportage à suivre. Des boutures de patates douces plus productives que celles qu'ils plantent aujourd'hui manquent aux agriculteurs exploitant le marais de Namvumvu dans la commune Matongo. Ils ont décidé de cultiver un bloc pour régénérer cette culture vivrière. Nous rejoindrons notre correspondant et les habitants des quartiers Nyabagere et Muyaga dans la commune de Nahangwa se réjouissent de la reprise des travaux de construction du pont reliant ces deux parties. Ils l'ont dit à notre reporter. Et la chronique santé de ce mardi est centrée sur les conséquences et le traitement des troubles des comportements. Voilà pour le sommaire.
Captez Isanganiro, écoutez la différence.
Je vous l'avais dit dans les titres, des habitants de la colline Ruhwa en zone Rukana de la commune Chibitoke réclament la réouverture de la frontière de Ruhwa située entre le Burundi et le Rwanda, ainsi que d'autres frontières avec ce pays. Ils affirment avoir énormément perdu en termes de relations et d'échanges des produits depuis la fermeture de la dite frontière. Renovan Sengiyumva, chef de cette colline, anciennement appelée Rukana 1, demande également qu'elle soit ouverte, mais après avoir analysé les contours sécuritaires. Ils le disent au moment où la frontière burundo-congolaise de Gatumba-Kavimvira a été ouverte le 23 février dernier. Mireille Kanyang.
Ces habitants de la colline Ruhwa, appelée Rukana 1 avant le nouveau découpage territorial, évoquent notamment les légumes et fruits qu'ils échangeaient avec le Rwanda via la frontière de Ruhwa avant sa fermeture. Les familles sont également d'un côté comme de l'autre des deux pays, ajoutent ces habitants. L'espoir quant à leur ouverture des frontières avec le Rwanda est né après une déclaration du secrétaire général du parti au pouvoir qui laissait entendre que si les frontières entre le Burundi et l'air d'essai sont ouvertes, celle avec le Rwanda suivra.
Nous avons eu espoir, le secrétaire général du parti l'avait bien dit et nous avions applaudi. Quand il a dit que si la frontière de Gatumba sera ouverte, que les frontières de Ruhwa et Nemba seront aussi ouvertes.
Nous serons contents si cette frontière est ouverte, car les relations entre les deux peuples continueront et les échanges des marchandises reprendront.
Ils demandent que ces frontières, notamment celles de Ruhwa, soient de nouveau opérationnelles. Sur ce, Renovan Sengiyumva, chef de la colline Ruhwa, souhaite également cette réouverture, mais nuance-t-il que les hautes autorités du pays analysent d'abord les contours de sécurité.
Quand nous avons entendu la réouverture de la frontière de Gatumba, cela nous a plu et nous nous sommes dit que la frontière de Ruhwa peut aussi être ouverte. C'est ce que nous demandons, mais que ce soit d'abord analysé quant à la sécurité de la population. Je ne saurais pas taire cette idée en tant qu'administratif que nos autorités se penchent, si possible, qu'ils ouvrent cette frontière pour que les relations continuent.
Les frontières entre le Burundi et le Rwanda ont été fermées le 11 janvier 2024 après une attaque sur la colline Vugizo à Gatumba. C'était le 22 décembre 2023, une attaque ayant coûté la vie à 20 personnes, dont 12 enfants. Quant à la frontière burundo-congolaise de Gatumba-Kavimvira, elle a été rouverte le 23 février dernier.
Mireille Kanyangé, de retour de Chibitoke. Des études très approfondies devraient être menées par des experts avant l'attribution du marché à l'entreprise Ubaka Landmax pour la reconstruction de l'ex-marché central de Bujumbura. Ceci est dit par l'économiste Diomède Ninheretse après que le Conseil des ministres ait communiqué cette nouvelle entreprise qui va exécuter ce projet durant 3 ans. Cet expert en économie qui apprécie positivement la décision du gouvernement trouve par contre que la construction de ce marché stratégique pour le pays devrait être attribuée à une entreprise expérimentée et dotée de moyens suffisants.
Je viens d'apprendre que Ubaka Landmax a eu le privilège d'être choisi parmi peut-être les autres entreprises, mais il n'y a pas une compétition à ma connaissance. Ça, c'est la première observation. La deuxième observation, c'est que ce marché demande beaucoup d'argent. C'est autour de 1 000 milliards. Alors moi je vous dis que cette entreprise ne sera pas capable de construire son marché si effectivement il a un capital de 3 milliards, 6 000 milliards. Ça c'est le deuxième constat. Le troisième constat, l'IA, c'est vrai, aujourd'hui nous constatons que ces entreprises locales peuvent être probablement des actionnaires, mais n'ont pas les moyens suffisants pour construire un marché aussi gigantesque. Aujourd'hui, je suis en droit de me poser la question de savoir s'il n'y a pas d'autres commerçants probablement autour de son marché qui empêchent que son marché soit transparent et qu'on puisse construire. Parce que une grande partie des entreprises privées qui aujourd'hui disposent des magasins pourront peut-être avoir les loyers diminués. Je crois qu'il y a une grande spéculation par rapport au choix et aux critères qu'on allait pour choisir une entreprise ou une autre. Vous savez que depuis un bon moment, depuis 10 ans, nous avons connu plus de 4 entreprises qui ont soumissionné et qui n'ont jamais exécuté aucune superficie à construire. Donc voilà, moi je me dis qu'il faut avoir de l'espoir naturellement, mais je me vois par rapport à ce qui est disponible. On n'est pas sûr si cette entreprise, effectivement, par rapport à la disponibilité des fonds aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de problèmes au niveau de l'exécution. C'est-à-dire que Ubaka Landmark va devoir chercher des crédits. Et un crédit peut prendre beaucoup de temps. Et même s'il pouvait mobiliser, je crois que ça va prendre un peu de temps. Je me dis que le président de la République, les autorités politiques et administratives doivent suivre effectivement cette entreprise pour que cette entreprise effectivement puisse respecter les délais et prévoir même des sanctions en cas de non-exécution. Le recours est simple. Il faut faire un cadre légal et approprié, prévoir un plan B et surtout toujours penser dans la logique de pouvoir faire des appels à proposition pour les grandes entreprises. Parce que dans la région, il y a des grandes entreprises qui ont construit des grandes sociétés, des marchés. Ce n'est pas nouveau pour le Burundi.
L'économiste Diomède Nindereze, dont les propos ont été recueillis par Évariste Nzikobanyanga. Et les habitants des quartiers Nyabagere et Muyaga dans la commune de Nahangwa se réjouissent de la reprise des travaux de construction du pont reliant ces deux quartiers après plus d'une année d'interruption. Une des autorités locales au quartier de Muyaga explique que durant cette période, les résidents avaient des difficultés de se déplacer car obligés de faire un long détour pour rentrer chez eux. Il demande à l'Office burundais de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction Obuha d'accélérer les travaux afin de faciliter leur déplacement. Jean-Marie Vianney, Ngendakoumana.
Les habitants des quartiers de Muyaga et de Nyabagere, situés au nord de la ville de Bujumbura, faut savoir que les relations entre ces deux quartiers vont s'améliorer grâce au pont qui les relie, qui est actuellement en cours de construction.
Nous accueillons très favorablement les travaux de construction de ce pont, car c'est un progrès pour notre pays ainsi que pour les habitants qui vivent ici. Ce pont de communication est très important et vraiment nécessaire, car actuellement, pour atteindre nos foyers, nous éprouvions beaucoup de difficultés et devions faire un long détour.
L'avantage sera très grand une fois la construction terminée, car les habitants d'ici avaient énormément de mal à trouver un passage pour traverser. Les élèves aussi éprouvent les difficultés pour se rendre à l'école, car ils devaient contourner longuement, alors qu'auparavant ils passaient par ces mêmes ponts.
Ils indiquent avant la construction de ce pont que les déplacements étaient difficiles car de nombreuses personnes tombaient souvent dans la rivière Nyabagere en tentant de la traverser. Ces propos sont confirmés par Jean-Paul Boutoy, l'aider responsable administratif du quartier Muyaga, qui affirme que même l'administration se réjouit de la reprise des travaux de la construction de ce pont.
Au niveau de l'administration, nous sommes heureux de voir que les travaux de reconstruction de ce pont ont repris. L'avantage est que les échanges entre ces quartiers vont reprendre. Les enfants venant du quartier Nyabagere pour aller étudier à Gikungu pourront atteindre l'école plus facilement et ceux qui effectuent différents déplacements seront également soulagés. Lorsque ce pont n'était pas encore réhabilité, beaucoup de personnes traversaient en passant par la rivière Nyabagere, ce qui était un risque. De plus, aucun véhicule ou moto ne pouvait y passer, ce qui rendait les déplacements très difficiles.
Cette autorité administrative du quartier Muyaga, tout comme l'ensemble des habitants, demande à l'Obuha chargé des travaux d'accélérer la construction. Les travaux de construction de Sopo, Horian, les quartiers de Muyaga et de Nyabagere ont repris il y a des mois après avoir été interrompus pendant plus d'une année.
Je venais de vous le dire dans les titres, les agriculteurs exploitant le marais de Nanvumvu dans la commune Matongo cultivent en bloc la patate douce dans l'optique de régénérer cette culture vivrière, mais il leur manque des boutures plus productives que celles qu'ils plantent ces jours-ci. Le chef du département de la protection de l'environnement, agriculture et élevage dans cette commune, Niyitunga Seleman, rassure s'être déjà saisi de la question et promet de la porter aux instances habilitées. Patrick Saint-Guillaume.
Certains des agriculteurs exploitant le marais de Nanvumvu dans la commune Matongo de la province de Boutanyeri l'a contacté quand nous les avons rencontrés dans son marais. Disent que les derniers jours, dans son marais, ils cultivaient la culture du maïs et du haricot principalement, mais qu'aujourd'hui, ils sont en train d'essayer aussi la culture de la patate douce afin de promouvoir de nouveau cette culture vivrière dans des ménages, une culture qui tend à disparaître au profit de la culture du maïs. Selon ces agriculteurs exploitant le marais de Nanvumvu, dans beaucoup de familles, les enfants sont nourris essentiellement de la pâte et du maïs, mais disent reconnaître que cette alimentation ne suffit pas pour permettre aux enfants de grandir convenablement. Malgré cette initiative de promouvoir la culture de la patate douce, les agriculteurs exploitant le marais de Nanvumvu demandent aux services en charge de l'agriculture et l'élevage de mener des recherches sur des semences de la patate douce plus performantes et à haut rendement. Contacté à ce propos, Seleman Niyitunga, chef du département en charge de la protection de l'environnement, agriculture et élevage dans la commune de Matongo. Celui-ci nous a fait savoir que cette doléance des agriculteurs exploitant le marais de Nanvumvu sera soumise aux autorités compétentes pour y trouver une solution durable. Depuis la commune Matongo dans la province de Boutanyerera, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro.
10% de la population vivante au Burundi souffre de problèmes d'audition. Cela a été annoncé par le secrétaire permanent au ministère de la Santé publique ce mardi à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'audition. Jean-Pierre Sinarinzi a précisé qu'à l'échelle mondiale, environ 430 millions de personnes, dont 34 millions d'enfants, souffrent de troubles d'audition. Il appelle les parents à toujours veiller à faire examiner leurs enfants dès qu'ils constatent des signes de difficultés auditives.
Chaque année, le 3 mars, le Burundi se joint au reste du monde pour célébrer la Journée mondiale de l'audition. Cette année, nous la célébrons sous le thème des communautés aux salles de classe, soins auditifs pour tous les enfants. C'est donc une bonne occasion de rappeler que la santé auditive est un pilier essentiel du développement de la personne depuis la naissance jusqu'à la vieillesse. Selon les statistiques fourni par l'Organisation mondiale de la santé, plus de 430 millions de personnes dans le monde souffrent de troubles de l'audition, dont 34 millions sont des enfants. Cependant, près de 60% de ces problèmes chez les enfants pourraient être évités grâce au dépistage précoce et à une prise en charge appropriée. Au Burundi, un peu plus de 10% de la population vit avec des troubles de l'audition. Actuellement, il n'existe pas encore de programme national de dépistage précoce des troubles auditifs chez les nouveaux-nés ni chez les enfants scolarisés. C'est pourquoi nous appelons les enseignants à être attentifs aux signes révélateurs de problèmes auditifs afin d'en informer les parents pour qu'ils puissent faire dépister leurs enfants. Les écoles devraient également être dans des lieux calmes afin de protéger l'audition des enfants.
Nécrologie, le monde de la presse burundaise et les professionnels des médias pleurent la mort du vice-président du Conseil national de la communication. Laurent Kaganda vient de s'éteindre à l'âge de 62 ans des suites d'une longue et pénible maladie. Les journalistes burundais qui le connaissent le présentent comme un fin connaisseur des dossiers de cet organe de régulation de la presse au Burundi, CNC. Que la terre lui soit légère. En actualité africaine, le Burundi, qui assure la présidence tournante de l'Union africaine, a présenté ce lundi 2 mars la candidature de Macky Sall pour succéder à Antonio Guterres à la tête de l'ONU. Un nouveau secrétaire général des Nations Unies doit être désigné le 1er janvier prochain. L'ancien président sénégalais rejoint les deux autres pour l'instant nommés, l'ancienne présidente chilienne Michelle Bachelet et le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'argentin Rafael Grossi. Et le Zimbabwe a commencé ce lundi à libérer 4305 personnes, dont 223 femmes qui ont bénéficié d'une amnistie présidentielle dans le but de réduire la surpopulation carcérale. Le gouvernement a annoncé l'amnistie en février, le jour même où il a approuvé des modifications constitutionnelles radicales dans le cadre d'un plan visant à prolonger jusqu'en 2030 le mandat du président Emmerson Mnangagwa, âgé de 83 ans. Selon les dernières données nationales disponibles, les prisons du Zimbabwe comptaient un peu plus de 24 000 détenus au deuxième trimestre 2025. Hors du continent, une première dame à la tête du Conseil de sécurité. D'ordinaire, le marteau du Conseil de sécurité est manié par un ambassadeur. Ce lundi, c'est à la première dame des États-Unis qui est revenue la tâche de présider une réunion consacrée à l'éducation en période de conflit. Une première dans l'histoire de l'organe chargé du maintien de la paix internationale. Au premier jour de la présidence américaine du Conseil pour le mois de mars, Melania Trump a défendu le temps d'une séance l'idée que le savoir est un pouvoir et appeler les États membres à connecter le monde entier au savoir grâce à l'IA, estimant que le conflit naît de l'ignorance et que le savoir crée la compréhension.
Radio Isanganiro, chronique santé.
La dépression et le refuge dans des conduites à risque comme la consommation de drogue figurent parmi les conséquences observées chez les enfants qui développent des troubles du comportement liés aux conflits parentaux. Selon Athanase Ngendakuriyo, psychoclinicien, ces enfants doivent être accompagnés par des professionnels afin de les aider à surmonter leurs souffrances. Cette chronique santé est signée Ornella Mucho.
Il existe de nombreuses conséquences observées chez l'enfant ou l'adolescent qui a grandi avec une blessure causée par des parents ayant une mauvaise relation. Athanase Ngendakuriyo, psychologue et clinicien, explique que par exemple qu'à l'école, on constate que l'enfant ne suit pas correctement les cours parce que pendant que les autres apprennent, son esprit retourne à ce qu'il a vécu.
Ils ont toujours tendance à avoir les signes d'abandon. Ce n'est pas un abandon physique, mais c'est vraiment cette absence morale des parents. Cette absence émotionnelle des parents. Les parents sont là physiquement, mais ils sont absents émotionnellement. D'autre chose, les parents se sont chamaillés la nuit et l'enfant pourra se poser la question le matin. Ah, peut-être que mes collègues de classe ont entendu ça. Peut-être que je vais m'endormir de la classe. Donc l'enfant va vivre la blessure par humiliation qui va faire que même l'estime de soi de l'enfant pourra chuter d'une façon progressive. Troisième signe pour ces catégories d'enfants, ils manifestent une forme d'injustice en fait. C'est comme si j'ai des parents, mais je vis une vie comme c'est des enfants orphelins en fait.
Par ailleurs, l'enfant peut essayer de chercher dans ce qu'il pense lui procurer du plaisir, ce qu'il n'a pas trouvé auprès de ses parents, comme par exemple la consommation de drogue.
Il peut commencer à être moins coopératif, c'est-à-dire qu'il crée un environnement toxique par rapport à lui-même, par rapport à son environnement, par rapport à son entourage. Et à la longue, l'enfant manifeste des troubles sévères comme la déviance, la méfiance. De quels troubles pourront même handicaper son carrière professionnelle.
Lorsque cet enfant ou cet adolescent consulte des psychologues cliniciens, ceux-ci l'aident de différentes manières, notamment en l'accompagnant à exprimer et à dépasser sa souffrance.
Qu'est-ce qu'on fait dans la prise en charge? C'est la correction des malentendus. C'est aider l'enfant à se redresser par rapport à ce qu'il appelait comportement normal alors que c'est pathologique. Ce qu'il prenait comme des modèles dans la vie, alors que c'était des mauvais modèles appris par la société, c'est aider aussi l'enfant au fait, à rebondir. Parce que la plupart des enfants, ils résignent, ils se disent « non, je suis pour rien, il faut que je meure », tout ça, tout ça. Donc il faut aider l'enfant. La plupart des fois, on nous amène les cas alors que c'est déjà vraiment un peu tard. Des fois, des cas qui sont au niveau des psychoses. En fait, pour arriver au dernier degré de la prise en charge, d'abord, il y a le stress aigu qui est corrigible, il y a le stress chronique qui est corrigible, il y a la période de névrose qui peut être corrigible. Mais si la personne est déjà au niveau des psychoses, là, c'est là où il prend des psychotropes tout au long de sa vie.
Dans notre prochaine chronique santé, nous continuerons à vous parler des actions à entreprendre pour aider l'enfant à guérir de ses blessures.
Merci, on est là, mucho, le rendez-vous est pris et c'est par là que nous bouclons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.